Bonjour, bienvenue dans l'émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Histoire 2 est une émission mensuelle consacrée à la lecture à voix haute. Je vous retrouve chaque quatrième vendredi du mois à 15h pour vous faire découvrir ou redécouvrir des textes au gré de mes lectures, de mes rencontres littéraires. Et aujourd'hui, pour cette émission du mois de novembre, nous allons découvrir un texte de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Sylvain Tesson est un écrivain et un voyageur. Un écrivain voyageur. Quelques exemples de ses voyages, une traversée d'Islande en vélo, un tour du monde à bicyclette, traversée de l'Himalaya à pied, 6 mois en ermite dans une cabane en Sibérie, et beaucoup d'autres voyages encore. Et autant de voyages qui ont donné naissance à des ouvrages et des essais. Par exemple, l'ouvrage « Dans les forêts de Sibérie » a reçu le prix Médicis Essai en 2011. Sylvain Tesson est aussi un amateur de toits. Il aime monter sur les toits. Et c'est à la suite d'une chute de 10 mètres en 2014 qu'il a écrit « Sur les chemins noirs ». C'est le texte, ou des extraits de ce texte édité chez Gallimard que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Commençons par la lecture de son avant-propos qui nous met bien dans l'ambiance. L'année avait été rude. Longtemps, les dieux avaient favorisé la famille, nous avaient baignés de leur douceur. Peut-être se penchent-ils sur certains d'entre nous comme les fées des contes ? Puis, leur sourire se crispe en grimaces. Nous ne savions rien de ces choses, mais nous goûtions cette amabilité du sort avec une désinvolture énergique. Elle nous affranchissait de la moindre gratitude, mais nous contraignait à une épuisante légèreté. La vie ressemblait à un tableau de Bonnard. Il y avait du soleil sur les vestes blanches, des compotiers sur les nappes, des fenêtres ouvertes sur un verger où passaient des enfants. Dehors, les pommiers bruissaient. Ah, le décor idéal pour un bon coup de massue. Cela n'avait pas tardé. Mes sœurs, mes neveux, tout le monde avait été atteint de l'un de ces maux qui s'infiltrent par les remparts dans les fables médiévales. Une ombre rampe dans les ruelles. Atteint le cœur de la ville, gagne le donjon, la peste avançait. Ma mère était morte comme elle avait vécu, faisant faux bond. Et moi, pris de boisson, je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombé sur un tas d'os. Je regretterai longtemps cette chute parce que je disposais jusqu'alors d'une machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens. Tous les voyants d'alerte sont rouges, mais la machine taille sa route et le moindre Cassandre à gueule d'idiot qui agite les bras en travers de la piste pour annoncer la catastrophe est écrasé menu. La grande santé, elle menait au désastre. J'avais pris 50 ans en 8 mètres. 4 mois plus tard, j'étais dehors de l'hôpital. Bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Il fallait à présent me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute « Si je m'en sors, je traverse la France à pied. » Je m'étais vue sur les chemins de pierre. J'avais rêvé au bivouac. Je m'étais imaginé fendre les herbes d'un pas de cheminot. Le rêve s'évanouissait toujours quand la porte s'ouvrait. C'était l'heure de la compote. Un médecin m'avait dit « L'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. » Je préférais demander au chemin ce que les tapis roulants étaient censés me rendre. Des forces. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée, sous la forme d'un papier froissé au fond de mon sac. Et c'est ainsi que dans la suite de l'ouvrage, Monsieur Sylvain Tesson nous raconte son périple à pied, à partir du Mercantour jusqu'à la pointe du Cotentin, entre un 24 août et un 8 novembre. Commençons par le 27 août. Le 27 août, la Vésubie et la Tinée. Les vallées s'étiraient, les villages passaient. Les cailloux roulaient davantage sur les chemins calcaires de la Haute-Provence. Un soir, à Saint-Dalmas, sentant grincer les armatures plantées dans mon dos, j'avisai un gîte. Oh, comme j'aurais aimé vivre au temps où ce petit dialogue eût été possible. « Avez-vous un toit et de la paille ? On te donnera le pain et le vin si tu aides aux fenaisons. » Mais il fallait vraiment s'être cassé la figure pour rêver à pareille conversation. On n'était plus au temps de Klumpt. « Mon pauvre petit, me dis-je, quand la dame aux longs cheveux bruns me déclara sur le seuil, on vous aurait bien fait le tarif gîte d'étape, mais on n'a pas l'accréditation administrative. » J'allais devoir être ingénieux pour échapper pendant des mois à la soumission du pays aux lois de l'administration. Trouverais-je sur le territoire des zones franches épargnées par la politique du territoire ? Un des lointains premiers ministres de la Ve République, Jean-Marc Ayrault, période Anatole France, avait commandé en son temps un rapport sur l'aménagement des campagnes françaises. Le texte avait été publié sous le mandat d'un autre ministre, Manuel Valls, période Offenbach, et sous le titre « Hyper-ruralité ». Une batterie d'experts, c'est-à-dire de spécialistes de l'invérifiable, y jugeait qu'une trentaine de départements français appartenaient à l'hyper-ruralité. Pour eux, la ruralité n'était pas une grâce, mais une malédiction. Le rapport déplorait l'arriération de ces territoires qui échappaient au numérique, qui n'étaient pas assez desservis par le réseau routier, pas assez urbanisés ou qui se trouvaient privés de grands commerces et d'accès aux administrations. Ce que nous autres, pauvres cloches romantiques, tenions pour une clé du paradis sur terre, l'ensauvagement, la préservation, l'isolement, étaient considérés dans ces pages comme des catégories du sous-développement. Le rapport se faisait rassurant. Les auteurs étaient de confiants prophètes. « Courage, citoyens campagnards, nous arrivons !» Bientôt, grâce à l'État, la modernité ruissellerait dans les jachères. Le wifi ramènerait les bouseux à la norme. Au lieu d'écrire « par les champs et par les grèves », le futur Flaubert qui traverserait ces étendues pourrait se fondre d'un « par les huppes et par les zacs ». Les bénéficiaires de ces aménagements feraient de bons soldats, des hommes remplaçables, prémunis contre ce que le rapport appelait les votes radicaux. Car c'était l'arrière-pensée, assurer une conformité psychique de ce peuple impossible. Parmi la batterie de mesures du rapport, on lisait des choses comme le droit à la pérennisation des expérimentations efficientes et l'impératif de moderniser la péréquation et de stimuler de nouvelles alliances contractuelles. Quelle était cette langue étrangère ? De quoi les auteurs de phrases pareilles nourrissaient-ils leur vie ? Savaient-ils le plaisir de s'essuyer la bouche d'un revers de la veste après une goulée de vin de Savoie ? La jouissance de se coucher dans l'herbe quand la silhouette d'un oiseau égayait le ciel ? Le texte était illustré de cartes. Les départements hyper-ruraux au secours desquels la gouvernance s'apprêtait à voler, intelligence de l'État au service de l'hyper-ruralité, disait-il, ces troubadours, occupaient une large zone noire. Elle prenait en écharpe les Alpes du Sud, marchait vers les Vosges et les Ardennes en englobant la quasi-totalité du Massif central et nombre de départements voisins de la Haute-Loire. Je l'apprendrai quelques semaines plus tard, ces territoires, du Mercantour à la Lozère, correspondaient au cheminement du Loup, après son retour en France. Pas folle, la bête. Elle mettait sa tranquillité au pinacle des vertus. Non seulement le loup n'attaquait pas l'homme, mais il tenait à l'éviter. À l'hôpital, rivé au banc de peine, contemplant ses cartes, il m'avait été facile d'imaginer l'itinéraire. La nature aime à se cacher, professait Héraclite dans le 123e de ses fragments, obscur comme il se doit. Tels les êtres inachevés, j'avais grand goût pour les recoins. L'hyper-ruralité était mon occasion. Et c'était l'une des cartes du rapport que je tenais serrée contre mon cœur, comme la photo d'une fiancée. La carte promettait l'évasion. Mon itinéraire ne décalquerait pas l'intégralité des zones hyper-rurales. Une fois extirpée du massif central, j'obliquerais vers le nord-ouest pour rejoindre la Manche. Je m'arrêterais sur les falaises de la Hague, là où le territoire plongeait dans la mer, offrant l'alternative du demi-tour ou du saut de l'ange. Les falaises m'avaient toujours paru de belles frontières. Je fis un récapitulatif, j'avais mon objectif, chercher les friches et les jachères. Je disposais de mon itinéraire et de mes cartes, fournies par les rapports d'études de l'État. Je savais comment me déplacer puisque je tenais la marche à pied pour une médecine générale qui serait la clé de ma reconquête. En bref, jamais je n'avais entrepris de voyage aussi organisé. Le 31 août, par le pays du Verdon. Vinrent les hauteurs respirables et la marche à grande foulée. Je mis 3 jours à gagner le plateau de Valensol par les croupes d'un relief anorexique entre le Var et le Verdon. Je passais Castellane, approché de Moutier, et le soir, jetais mon bivouac sous un arbre choisi, un chêne vert ou un pin. Il me tenait ombrage, compagnie, parapluie, au cas où. Les clous de ma colonne vertébrale me forçaient à me coucher sur le flanc. Mon matelas gonflable me soulageait un peu, mais le moindre contact avec le sol me faisait regretter le confort du lit d'hôpital. Le sommeil tardait à venir. Les arbres tremblaient, mais ce n'était pas de peur. C'était un frémissement inquiet, comme s'ils avaient craint l'avancée de l'ombre, douté le retour du soleil. Je me souvenais du pays berbère, dans les montagnes de l'Atlas. Les hommes là-bas, du temps où ils se repliaient dans les hauteurs forcées par les Arabes, avaient forgé une somptueuse expression pour distinguer les nomades des sédentaires. Les premiers étaient appelés « hommes de la lumière ». Peau cuite de soleil, cuir durci par le vent, ils dormaient sous le ciel. Les seconds étaient les hommes de l'ombre, car ils demeuraient à l'abri de leur toit et leurs mauvais rêves ne s'échappaient jamais de la maison. Mes nuits sous la jupe des arbres étaient des nuits du soleil. Au lever d'un bivouac, la jouissance des rayons sur le corps est comparable aux premières secondes du bain chaud. Ma jouissance se nourrissait du retour de mes forces. Guérir tenait du processus végétal. La santé se distribuait dans l'organisme comme les fibres de la plante. Elle rampait, poussait. Mon soin a été de la laisser se déployer en jouissant mezza voce de l'effort modéré de la marche. La quotidienne remise en route offrait un plaisir de basse intensité, résumé à presque rien. Détecter des traces de vie dans la montagne, de jolies trouées dans une échancrure, la vue d'un mât ou d'un chevet roman. Un engoulevent s'exfiltrait devant moi, c'était une vision pour l'éternité. Je jetais quelques lignes sur un carnet si le spectacle d'un chêne dans un champ blond m'inspirait un salut affectueux. Il me le rendait d'un battement de branche. La marche était une pêche à la ligne. Les heures passaient et soudain, une touche se faisait sentir. Peut-être une prise, une pensée avait mordu. Le soir, je m'endormais et les images de la lanterne magique défilaient derrière mes paupières. Était-ce là une vie réduite ? Oui, mais réduite à sa plus simple expression, la plus belle peut-être. Le défi était de faire durer cette douce tension. Entre moi et le monde, il n'y avait que l'air tiède, quelques rafales, des herbes échevelées, l'ombre d'une bête, et pas d'écran. Aucune information, Pas d'amertume, pas de colère. Ma stratégie du retrait est distiller sa jouvence dans mes fibres. Aller par les chemins noirs. Chercher des clairières derrière les ronces était le moyen d'échapper au dispositif. Un embrigadement pernicieux était à l'œuvre dans ma vie citadine. Une surveillance moite, un enrégimentement accepté par paresse. Les nouvelles technologies envahissaient les champs de mon existence bien que je m'en défendisse. Il ne fallait pas se leurrer. Elles n'étaient pas de simples innovations destinées à simplifier la vie. Elles en étaient le substitut. Elles n'offraient pas un aimable éventail d'innovations. Elles modifiaient notre présence sur cette terre. Il était ingénu de penser qu'on pouvait les utiliser avec justesse, écrivait le philosophe italien Giorgio Agamben dans un petit manifeste de dégoût. Elle remodelait la psyché humaine, elle s'en prenait au comportement. Déjà, elle régentait la langue, injectait leur bêta-bloquant dans la pensée. Ces machines avaient leur vie propre. Elles représentaient pour l'humanité une révolution aussi importante que la naissance de notre néocortex, il y a 4 millions d'années. Améliorait-elle l'espèce? Nous rendait-elle plus libres et plus aimables? La vie avait-elle plus de grâce depuis qu'elle transitait par les écrans? Cela n'était pas sûr. Il était même possible que nous soyons en train de perdre notre pouvoir sur nos existences. Agamben encore, nous devenions le corps social le plus docile et le moins soumis qui soit jamais apparu dans l'histoire de l'humanité. Partir sur les chemins noirs signifiait ouvrir une brèche dans le rempart. N'ayant en moi ni la violence du saboteur, ni le narcissisme de l'agitateur, je préférais la fuite. Assis sur l'herbe, dans l'involute d'un cigarillo, je disposais au moins du pouvoir d'oublier les écrans et de m'hypnotiser plutôt du vol des vautours par-dessus les encolis.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent, et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Où mes printemps, où mes soleils, où mes folles années perdues, où mes 15 ans, où mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou d'où j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre. Moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais mon enfant, mon seul.
Vous êtes toujours dans l'émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous consacrons notre émission à la lecture d'extraits de « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur. Poursuivons par le 17 septembre, dans les bois de Paillolive. Les jours suivants consistèrent à me frayer le plus possible un chemin noir. Le pays était moins peuplé, l'exercice plus aisé. Le soir, je calculais combien de temps j'avais réussi à me tenir sur le réseau des pistes oubliées. J'avais parfois la satisfaction d'y cumuler plus des trois quarts du kilométrage. Je fis cap vers le mont Lozère en visant les Vannes. La pluie avait emporté le pont du ruisseau de Lentouze, près de Vallon-Pont-d'Arc, et je me souvenais de la question que nous posions souvent au Népal, devant les ponts arrachés par les rivières de mousson. Allait-il falloir s'infliger 4 jours de marche pour passer de l'autre côté? Ici, dans la géographie de France, pareil déconvenu ne rallongeait la route que d'une poignée de kilomètres. C'est l'avantage des petits pays aménagés comme des jardins japonais. Arrête de rêver, Tesson, la nuit tombe. Cédric Gras m'avait rejoint la veille dans le village de Vallon-Pont-d'Arc et nous avions cheminé tout le jour en silence. Je le connaissais depuis 10 ans. Je lisais ses livres et il avait supporté mon goût pour les jurons russes, l'alcool fort et les nuits compliquées qui résultaient de la conjonction des deux penchants. Il avait travaillé pendant ses 10 dernières années en Russie, que nous considérions comme une seconde patrie à cause de sa géographie et de quelques-uns de ses habitants. Nous nous étions perdus dans les forêts de l'extrême-orient russe. Nous avions bu de la bière dans la mairie de Donetsk, défendue par les séparatistes russophones, et nous avions réussi quelques escalades impréparées. Il ne me reprochait jamais mon amateurisme en alpinisme, car lui-même s'était fracturé la jambe à 6000 mètres d'altitude dans le Karakorum et avait dû la vie à un double effort d'un second cordée italien et d'un pilote d'hélicoptère pakistanais. Sa conception des relations humaines ne mesurait jamais la valeur d'un sentiment à la fréquence de son expression. Nous fîmes le feu ce soir-là sur le rebord de la falaise en contreau de chassagne. Des rapaces coupaient l'air. Toute la nuit, le vent fit claquer nos tentes avec ce bruit des voiles qui réveille en sursaut les marins pas sérieux, endormis pendant leur quart. À minuit, Gras, régulé comme une chauve-souris, se prit à parler. « Vois-tu, nous voyageons, nous courons le monde et nous ne comprenons rien à ce chaos de blocs. Le marcheur n'est pas digne de ce qu'il foule, dis-je. » Il y a une scène dans « Les Cosaques » de Tolstoï. Un vieux soldat emmène dans la forêt de jeunes cadets russes sortis de l'école militaire. Ce sont de brillants officiers. Ils ont leurs diplômes, leurs sciences, leurs médailles, mais ils ne voient pas les traces des bêtes au sol. Ils ne déchiffrent rien des signes du vent dans les arbres. Et le vieux a ce mot. Ils sont savants, mais ils ne savent rien. « C'est nous, dis-je. » Mon vieux, la ruralité que tu rabâches est un principe de vie fondé sur l'immobilité. On est rural parce que l'on reste fixé dans une unité de lieu d'où l'on accueille le monde. On ne bouge pas de son domaine. Le cadre de sa vie se parcourt à pied, s'embrasse de l'œil. On se nourrit de ce qui pousse dans son rayon d'action. On ne sait rien du cinéma coréen, on se contrefout des primaires américaines, mais on comprend pourquoi les champignons poussent au pied de 7 souches. D'une connaissance parcellaire, on accède à l'universel. L'universel, c'est le local moins les murs, dis-je. Tu connaissais cette phrase de Miguel Torga ? Non, dit-il. Nous sommes modernes. Nous passons. et nous finîmes même par nous endormir. Poursuivons par le 9 octobre dans la Creuse. À grands pas sous le ciel qui s'ouvrait, j'avais contracté une habitude instaurée en rituel et que je recommande à tout marcheur des taillis. En déboulant devant un pré bordé par une forêt, je gueulais ce cri de ralliement destiné à un dernier carré. « Qui guette à la lisière ?» Et parfois, je débusquais un chevreuil apeuré, un faisan, un lièvre ou un échassier qui décollait malhabilement, preuve que mon appel n'était pas vain et que le royaume était encore gardé en ses orées par des sentinelles vaillantes. Les lisières sont des remparts entre les empires. Je traversais Héra, charmant hameau peuplé de Hollandais, occupés à fleurir des balcons. J'avais tenu Héra pour le nom d'une cité de l'ouest de l'Afghanistan où des femmes s'étaient immolées par le feu afin d'échapper à l'enfer coranique. Je me dis que la toponymie était une science étrange, distribuant le même nom à des lieux dits charmants et des cités maudites. Raisonnons mieux. Peut-être étaient-ce les hommes qui ne mettaient pas la même grâce à se créer les conditions du bonheur selon la loi qu'ils se choisissaient. Les forêts se doraient, que le sorbier ponctuait de rouge. Les pommiers croulaient sous les fruits, leurs contours japonisaient la rousseur des orées. Le vent arrachait des paillettes aux arbres des fossés. Elles tombaient en copeaux, motifs de Klimt. J'aurais donné un doigt de pied pour cheminer de concert avec un professeur de l'école du Louvre qui m'aurait dispensé à chaque coup d'œil un cours d'histoire de la peinture du paysage. Pourquoi les peintres européens avaient-ils mis si longtemps à quitter leurs ateliers pour planter les chevalets dans les paysages? Pourquoi avaient-ils tardé à convier le monde dans leurs œuvres? Il est probable que recevoir dans sa soupente de jolis modèles prêts à poser nus prédispose à rester chez soi. La cassure que j'attendais arriva à quelques kilomètres au nord du village de Vigoulan. Une dernière pente menait à la pliure du terrain, puis la plaine naissait. L'horizon offrit ses promesses. Le ciel couvrit toute la terre, bienveillant. Je passai du Limousin au centre, de la Creuse à l'Indre. C'en était fini des bastions de granit entaillés par des ravins ombreux où incubaient les présidents de la République. Je m'extrayais du massif central. Oh, ce n'était pas encore la France royale, la plaine seigneuriale et les chasses giboyeuses de la Loire, mais déjà un Berry plat et béni. Les fronts paysans seraient moins soucieux, la terre moins âpre, la ronce moins vigoureuse et les serpents moins sûrs de leurs droits. À partir de là, j'infléchirai ma route vers le nord-ouest pour viser le Cotentin. Si j'avais voulu m'y conformer, j'aurais poussé vers l'Ardenne, par l'Allier, la Nièvre et l'Yonne, pour trouver les chemins noirs dans une campagne plus modernisée et jacobine, compliquer le jeu. Et il faudrait mieux scruter les lieux pour y repérer les caches. L'espace ouvert m'éperonnait d'une vigueur nouvelle. Le relief déterminait mes humeurs en vertu d'un phénomène géopsychique. Et voilà, ainsi s'achève la lecture de quelques extraits, de quelques dates, de « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, édité chez Gallimard. Je vous invite à lire cet ouvrage magnifique et à poursuivre le voyage en sa compagnie sur les chemins noirs. Merci à Corcine pour la composition du générique. Merci à Damien pour la technique. Nous avons entendu « Mon enfance » de Barbara en milieu d'émission. On se retrouve dans un mois pour une prochaine émission de Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. D'ici là, bonne lecture et bye bye.